La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. En Afrique du Sud-Ouest, les troupes allemandes ont exterminé au début du XXe siècle les Herero, faisant à cette occasion 80 000 morts. Troupes régulières et mercenaires ont tué des millions de gens dans l'État indépendant du Congo, propriété personnelle du roi des Belges Léopold II. Durant la Révolution et la guerre civile qu'a connue le Mexique entre 1920 et 1930, pas moins de 2 millions de personnes ont péri, pour partie des militaires engagés dans un combat asymétrique, mais aussi et surtout des citoyens sans défense, victimes de groupes armés. Au cours de la Première Guerre mondiale, des unités spéciales turques ont massacré près d'un million de civils arméniens. En URSS, la grande terreur stalinienne des années 1930 a causé la perte de millions de vies humaines et le régime a en outre fait mourir de faim des millions d'Ukrainiens. Les troupes japonaises qui, lors du sac de Nankin, ont abattu des centaines de milliers de Chinois ont probablement tué, entre le début et la fin du conflit, des millions de citoyens sans armes. Parmi ces opérations d'extermination de masse, l'Holocauste, qui a permis au régime de Hitler d'éradiquer quelques 6 millions de Juifs, ainsi que nombre d'autres groupes de population, représente l'horreur absolue. Avec l'effondrement des forces militaires nazies, près d'un million d'Allemands restés à l'arrière ont été tués ou sont morts d'épuisement, de faim et de froid en Europe centrale, tandis que 10 millions environ en étaient expulsés. 2 ans plus tard, alors que l'Inde accédait à l'indépendance et que s'opérait sa partition d'avec le Pakistan, 1 million de personnes ont succombé dans des affrontements entre groupes religieux et près de 10 millions d'habitants ont été chassés de leur foyer. Dans la Chine de Mao, des dizaines de millions de paysans ont été décimés par la faim au cours des années 1950 à la suite de la collectivisation de l'agriculture. Une dizaine d'années plus tard, la révolution culturelle allait faire à son tour près d'un million de morts. Vers la même époque, en 1965, pas loin d'un million de communistes ont été assassinés en Indonésie à la suite d'un coup d'état militaire. En 1971, l'armée du Pakistan occidental a tué au moins 1 million d'habitants du Pakistan oriental, du Bangladesh, lorsque celui-ci a voulu faire sécession. Entre 1975 et 1979, les Khmers rouges ont exterminé 1 700 000 contre-révolutionnaires cambodgiens. En 1982, l'armée guatémaltèque a fait au bas mot 80 000 victimes en réprimant dans le sang un soulèvement du peuple Maya Exil. À la fin du siècle, au cœur de ce qui s'est avéré un carnage pour toutes les forces concernées, les troupes serbes ont massacré, selon toute probabilité, 10 000 bosniaques musulmans. Au Rwanda, des hordes armées de Hutus ont abattu en 1994 presque 1 million de Tutsis et de Hutus suspects. Cette liste n'est pas exhaustive, même ordonnée, nous prévient Abraham de Swan, qui est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. C'est un grand sociologue qui a travaillé sur ces exterminations de masse et tenté, avec les sciences sociales, de comprendre ce qui peut rendre possible de telles choses. Abraham de Soham, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes professeur émérite à l'université d'Amsterdam.
Oui,
vous êtes l'un des grands sociologues, on vous doit de nombreux livres qui ont marqué la discipline. Et là, apparaît en français, Divisé pour tuer, les régimes génocidaires et leurs hommes de main, aux éditions du Seuil, dans la collection Liber, qui est cette enquête à propos, non pas simplement de génocide, parce que c'est vrai que ces génocides ont fait l'objet de beaucoup de recherches et souvent de travaux monographiques, parfois de travaux de comparaison, mais vous élargissez en quelque sorte encore la focale, puisqu'à côté de ce qui est juridiquement défini comme génocide, vous choisissez de vous intéresser aussi à d'autres exterminations de masse qui n'ont pas ce caractère juridique de génocide, mais qui n'en constituent pas moins des événements qu'on peut rapprocher, parce qu'ils témoignent eux aussi de cette même forme de violence que vous vous êtes donné pour objet de compréhension. C'est probablement l'un des défis les plus grands qui soient pour les sciences sociales. Comment en êtes-vous venu à vous le fixer, Abraham de Soham ?
Je crois qu'il y avait un grand choc quand on était confronté avec les massacres à l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Et on avait pensé, cela jamais plus. Never again. Et quand même, il y avait deux grandes annihilations de masse qui... on ne pouvait pas nier, ne pas ignorer. Et là, très vite, je me suis réalisé qu'il y avait eu d'autres dont que j'ignorais quasi complètement. Et ça, c'est un des plus important fait que on oublie, on ignore, on nie ces événements de destruction.
C'est pourquoi j'ai commencé cette émission en faisant cette longue énumération. Parce que c'est vrai qu'à côté de ces événements tragiques qu'on connaît tous et qu'on n'a toujours pas fini d'analyser, de comprendre, il y a aussi beaucoup d'exterminations de masse dont on n'a jamais entendu parler, tout simplement, lorsque on a fait des études supérieures, pourtant, dans des démocraties occidentales.
Non, c'est correct. D'abord, il faut se rendre compte, quasi jamais malfaiteur, un génocidaire a été puni pour tous ces meurtres. Seulement quand le régime génocidaire a complètement été défait, vaincu, il y a une possibilité, une chance qu'il y ait des procès et qu'il y ait des convictions. Mais c'est extrêmement rare. C'est l'Allemagne, le Rwanda, à un certain degré, l'ex-Yougoslavie, et pour le reste, personne. En l'ex-Union soviétique, pas une seule personne. La Chine, l'Indonésie, le Pakistan, tous ces millions et millions de meurtres sont impunis. Et souvent, j'ai dit à mes étudiants, « Mass murderer is the safest job on the planet ». Comment on traduit ça ?
Assassin de masse ou meurtrier de masse est l'emploi le plus sûr, le plus sécur de la planète.
Mais en plus, on oublie, on ne veut pas savoir. Donc, pour donner un exemple, ça a été très difficile pour les Belges de se rendre compte de ce qui s'est passé au Congo, ou par exemple pour la Hollande, les Pays-Bas, ce petit pays innocent, l'annihilation de masse dans les dernières années du 19e siècle au Aceh, les soi-disant guerres d'Aceh, sont quasi complètement oubliées. Il n'y a pas de livres là-dessus que par un journaliste qui n'est pas historien professionnel.
Alors, pour essayer de comprendre ce qui rend possible la mise en œuvre relativement régulière au cours du XXe siècle de ces exterminations de masse, dont certaines vont faire des millions de victimes, quand d'autres n'en feront que, si j'ose dire, des dizaines de milliers, vous mobilisez toutes les échelles de compréhension que permettent les sciences sociales. C'est-à-dire que, à la différence de beaucoup de travaux, vous choisissez de regarder ces événements historiques à la fois d'un point de vue global, macro-sociologique, et puis à l'autre extrémité, du point de vue psychologique, des individus, et entre les deux, en choisissant de considérer ce qui se passe dans la situation aussi, qui est une dimension extrêmement importante pour vous. C'est quatre échelles d'analyse, au fond, que vous mobilisez à Bram de Swan.
Oui, c'est exactement, on pourrait dire, il y a le premier niveau qu'on peut appeler macro-sociologique, mais ça veut dire la culture, la société en long terme, les grandes divisions, souvent submergées, raciales et ethniques, dont on parle pas trop, qui ne sont pas actualisées au moment, et qui sont souvent des relations de plaisanterie, et qui peuvent se transformer en haine pointue. Deuxièmement, entre le régime, le personnel qui occupe l'appareil de l'État et qui peut installer des politiques de séparation, d'isolement, ghettos, des institutions. C'est le niveau institutionnel et du régime. Troisièmement, il y a l'interaction directe entre les gens. Quand, à un certain moment, ils commencent à s'éviter l'un et l'autre, être gênés d'être vus avec cette personne autre, différent, et finalement, quand ils commencent à internaliser, comme appartenant à leur émotion propre, une certaine haine et mépris de l'autre. Et souvent au niveau physique, je donne un exemple, il y avait dans le régime nazi, comme dans la première moitié du XXe siècle, l'idée qu'il y avait un dégoût naturel de l'homosexuel. Et un homme hétérosexuel sentirait quelque chose d'affreux dans sa peau quand il voyait un homosexuel. Mais cela prouvait que lui, il n'était pas homosexuel. C'était confortant. Et les nazis avaient l'idée qu'il y avait un mépris, un dégoût naturel dans un homme arien, une personne arien, du juif. Ça donnait des creeps. Donc, je dis ça pour démontrer la perversité, mais aussi la physicalité directe, la corporalité de ce que l'État peut instaurer dans ses citoyens. Donc il y a ces quatre niveaux qui sont d'ailleurs pas vraiment des niveaux, ils sont liés entre eux, il faut passer de l'un de l'autre. Ça, j'appelle ça la sociologie classique. C'est comme ça qu'on fait de la sociologie.
Et la sociologie se fixe pour objectif de comprendre, et le mot est important dans le contexte français aujourd'hui, où l'on voudrait nous laisser entendre qu'il y a des choses qu'on ne saurait pas comprendre.
Oui.
Et c'est l'un des écueils que vous évitez. Cette idée qu'il y a une dimension du mal qu'on ne pourrait pas comprendre, ou à l'inverse, qui revient peut-être à dire la même chose, que cette dimension du mal, après tout, est totalement ordinaire, donc circulée, il n'y a rien à voir. La sociologie est là pour nous dire qu'entre ces deux écueils, elle a du travail à faire.
Oui, du travail à faire, c'est parfaitement correct, parce que c'est très difficile. C'est difficile émotionnellement, mais c'est aussi difficile au niveau intellectuel, parce que, comme vous dites, il faut éviter les deux extrêmes et travailler pour comprendre. Il y a beaucoup de choses que moi, au moins, je n'ai pas encore compris, et peut-être je ne comprendrai pas, mais on ne peut faire cela qu'en utilisant tous les outils que les sciences sociales possèdent.
Alors, parmi ces outils, il y a évidemment la dimension historique qui est très, très, très importante. Oui. Parce que ce qu'il ressort de votre enquête, qui ne permet sans doute pas de tout comprendre, mais qui permet de dégager un certain nombre de caractéristiques communes à toutes ces exterminations de masse que j'ai citées en ouverture de cette émission, c'est l'importance du cadre politique, du régime politique dans lequel surviennent ces exterminations. Ces exterminations ne se produisent pas par hasard de ce point de vue-là. Elles ne sont possibles. C'est-à-dire le comportement d'un certain nombre d'individus qui vont se mettre à tuer des civils qui, jusque-là, avaient vécu souvent à leur côté, partageant nombre de choses, n'est rendu possible que parce qu'elle est soutenue par un régime. Ça, c'est vraiment l'un des enseignements forts de votre enquête, Abraham de Soigne.
Oui. S'il y a un moment, disons, volontariste où une volonté collective compte et change les circonstances, c'est un régime génocidaire qui peut manipuler les institutions, former ses citoyens, le peuple du régime, et les inciter la haine contre les autres, contre la groupe cible. Et les séparer de plus en plus, les diviser pour tuer. Et dans une société moderne, l'appareil idéologique de l'État, c'est une ancienne expression, est énormément puissant. Je crois que le régime nazi a vraiment réussi à transformer les Allemands et d'inciter une haine quasi sans égale, mais quand même avec beaucoup de cas plus ou moins semblantes.
Pour bien comprendre l'importance de ce cadre politique, j'assistais cette semaine à une rencontre que vous aviez avec d'autres chercheurs et journalistes. Et j'entendais mon ami et collègue Madeleine Moukamabano expliquer la différence qu'il y avait eu entre ce qui s'est passé en 1959 au Rwanda et ce qui s'est passé en 1994. Oui. Et en 1959, il y a eu des victimes, mais très peu, au regard des quasi millions de morts de 1994. Tout simplement parce que, à l'époque, les Hutus ne pouvaient pas s'appuyer sur un appareil d'État qu'ils avaient entre leurs mains en 1994.
Oui,
elle nous a d'ailleurs, de façon très émouvante, expliqué que c'est ce qui lui a, à elle-même, sauvé la vie, comme enfant à l'époque.
Oui. Eh ben, elle n'est pas seulement victime d'un des premiers massacre en survivante, je devrais dire, au Rwanda. Elle est aussi une grande activiste et en plus un ex-journaliste de Radio France.
Y compris à la suite, dans les idées. Nous avons eu l'occasion de travailler ensemble.
Personne merveilleuse.
Mais revenons donc sur cette ambition qui est la vôtre, assez considérable, essayer de dégager des caractéristiques communes à ces exterminations. Vous en venez à distinguer, au fond, des situations différentes qui rendent possibles ces exterminations de masse et qui ont quand même beaucoup à voir avec la guerre civile.
Tout
c'est l'un des éléments décisifs.
Oui. On pourrait dire que le mot génocide est un mot technique de la juridique internationale. avec beaucoup d'avantages, c'est un grand pas avant dans la civilisation juridique de l'humanité, mais pour l'analyse sociale, c'est pas toujours le meilleur outil. Alors, j'étudie des événements, des épisodes où il y a une violence asymétrique des hommes, quasi toujours des hommes, armés et organisés contre des personnes sans armes, sans défense et sans organisation. C'est très important, l'organisation. Et je crois qu'il y a quatre modalités importantes. La première, c'est la frénésie des vainqueurs. Dans toute l'histoire du colonialisme, ça s'est passé. Il y a une armée victorieuse et enragée parce que l'ennemi a été lâche et les a attaqués et trahis et tout ça, qui commence à tuer en grand nombre le peuple vaincu.
Alors ça, par exemple, c'est les situations, vous dites, coloniales comme...
Par exemple, la situation des Allemands en Afrique.
Avec les Herero, par exemple.
C'est dans le passé de tous nos pouvoirs ex-coloniaux européens. Et c'est dans nos passés, pas toujours dans nos mémoires. On préfère ne pas se souvenir. Puis, il y a la domination par la terreur. C'est quand un régime est bien établi et décide de terroriser ses citoyens en les divisant parmi les peuples du régime et le peuple, les gens cibles, souvent comme résultat des compétitions internes entre des factions du régime. Dans le maoïsme, c'était très clair, et chez Staline aussi. C'est surtout la façon communiste de tuer ses citoyens. En troisième, c'est... quelque chose qui est un peu paradoxal, c'est le triomphe des vaincus, la victoire des vaincus. Et c'est quand un pouvoir, un régime se voit confronté, menacé par une défaite imminente, qu'il commence tout d'un coup de tuer encore plus de leurs propres citoyens appartenant au groupe cible. C'est une destruction autodestructrice. Et quand même, ça arrive assez souvent. Un bon exemple, c'est le Cambodge, qui avait provoqué l'invasion du Vietnam beaucoup plus fort. L'Allemagne, dans les trois dernières années de la Seconde Guerre, où s'intensifient les efforts d'exterminer les Juifs d'Europe, même si ça nuirait à l'effort militaire. Et le Rwanda, qui était, parce que l'invasion du RPF était déjà en marche vers Kigali, et quand même, eux, plutôt de se défendre contre le RPF, l'armée Tutsi de Ouganda, il continuait à tuer des Tutsi. Une destruction autodestructrice, paradoxale, qui nous avertit que l'analyse rationnelle ne nous mène pas au cœur des événements, qu'il y a quand même une irrationalité enracinée dans l'être humain, les êtres humains.
Donc ça, ce sont le mégapogrom.
Le mégapogrom, c'est quand il y a un grand événement à l'échelle continentale que tout le monde comprend, que tout le monde a appris, et que au niveau local commencent des petits pogroms, des querelles ethniques meurtrières, coordonnées, concaténées. C'est un mot français, c'est un mot anglais au moins.
On peut l'utiliser.
Par ces grands événements. Donc, c'était la défaite des armées nazies par l'armée russe en Europe centrale, que vous l'avez mentionné, avait 10 millions de personnes expulsées.
Déplacées, oui.
Et 1 million qui ont péri. Et 2 ans plus tard, plus ou moins la même chose en Inde, qui était en train d'être divisée en Pakistan et l'Inde, comme nous les connaissons maintenant. Et de nouveau, des pogroms locaux coordonnés par ce grand fait que l'armée britannique se retirait et ne protégeait plus l'ordre public. Et de nouveau, il y a eu 10 millions d'expulsés, probablement 1 million, sous des conditions extrêmement, hystériquement atroces.
Oui. Quelle place dans ces analyses, dans cette analyse, vous réservez à ce qu'on pourrait appeler l'idéologie ou le discours, la propagande? On sait que au Rwanda, la radio a joué un rôle très important. On sait que l'idéologie nazie a joué un rôle essentiel.
Et donc aux intellectuels, nos collègues oui, qui sont souvent complices en semant la haine. Oui, je crois que le mot, les idées, les slogans ont un pouvoir sur l'esprit des gens, et qu'il y a des politiciens créateurs, innovateurs, qui ont le talent d'inventer des mots qui sèment la haine. Quelqu'un qui est très doué dans ce respect, c'est Donald Trump. Aux États-Unis, on peut l'observer comme il fait. Il est brillant, il est même comique. Il dit des choses qu'on a pensé soi-même, qu'on n'a pas voulu dire pour des bonnes raisons. Donc, d'une certaine... Il paraît courageux. Et ça a un effet spectaculaire. Et, bon, on a... En France, on a eu Jean-Marie Le Pen. Lui, il était nazi. Et les Français, au fin de compte, n'aiment pas vraiment le nazisme. Marine Le Pen est beaucoup plus professionnelle. Et elle sait exactement quoi faire. Mais ce qui est important, que Wilders et Le Pen sèment la haine. Mais jusqu'à maintenant, ils évitent la violence de rue. Et le racisme est explicite. Il parle en termes de culture et de religion. Mais ces religions et cette culture sont immuables et déterminants. Un peu comme le concept de race, mais pas tellement controversiel.
Dans un livre important publié récemment, la chercheuse Cécile Alduy montrait comment, au fond, Marine Le Pen disait exactement la même chose que Jean-Marie Le Pen, mais différemment, avec un autre lexique et des formes d'euphémisation de ce que... vous appelez la haine politique, de ce qui oui. est la haine politique des abstractions plus grandes. Elle parle d'immigration et non pas des immigrés, par exemple.
Oui.
Mais en produisant et en cherchant à produire les mêmes effets. Puisque vous parlez de Donald Trump et que donc vous regardez l'actualité, je dirais à partir de tout ce que vous avez rencontré dans votre enquête sociologique sur ces exterminations de masse. Comment observez-vous ce qui est en train de se passer avec Daesh, qui semble un phénomène politique et historique inédit à certains égards?
Oui, je trouve ça très difficile d'y répondre parce que ce qui se passe là-bas, en Syrie, en Irak, je l'ignore en grande mesure. Donc je n'ai pas une bonne idée de exactement ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Sauf que c'est atroce. Terrible. Mais il y a une grande différence entre les soi-disant djihadistes qui partent pour la Syrie et nos meurtriers de masse, parce que les génocidaires commettent des crimes d'obéissance, comme on l'a. Ils suivent le grand the mainstream, le grand courant social de
majoritaire en majoritaire. Général dans un pays.
Tandis qu'il faut avouer que quand même un djihadiste, un jeune qui décide de partir en Syrie, ici de France ou des Pays-Bas, c'est quelqu'un qui fait un choix assez indépendant dans un tout petit cercle de son mosque et dans un tout petit cercle de prison, parce que les prisons jouent un rôle énorme dans la sélection.
Et donc, un choix ultra minoritaire dans la société française.
Tout à fait.
Donc le contraire de ce qu'on observe dans les mécanismes génocidaires.
Pour comprendre ceux qui commettent des massacres, des crimes, il faut toujours d'abord regarder comment ont-ils été sélectionnés. Ont-ils été recrutés avec de force, avec d'autorité? Ou est-ce qu'ils se sont auto-sélectionnés comme les djihadistes dans ce cas? Et là, il faut regarder beaucoup plus aux circonstances et dispositions personnelles, parce que ce sont eux qui ont fait cette décision vitale. Et dans ce respect, ils paraissent aux volontaires de la guerre d'Espagne, la brigade internationale, les volontaires de l'SS. Je déteste de dire ça dans une seule haleine, parce que ceux qui ont choisi de se battre contre les fascistes de Franco avaient raison et les volontaires de l'SS avaient tort. Mais il y a aussi des similarités. Une fois que je me libère de mes passions politiques et historiques, je peux aussi voir qu'il y a des ressemblances qui peuvent nous instruire un peu comment aménager ce problème du djihadisme.
C'est tout l'intérêt des sciences sociales, de pouvoir penser avec les mêmes outils des choses dont on pense que les protagonistes agissent avec raison et d'autres, au contraire, qui nous font horreur. Oui. Je voudrais, Aram de Swann, vous poser une question pour terminer. Votre livre, au fond, permet de régler un débat ancien lancé au moment du procès Eichmann par Hannah Arendt, et dont on sait que la référence est omniprésente avec cette expression utilisée à tort et à travers de banalité du mal. Oui. Comment expliquez-vous le succès de cette expression? Est-ce que c'est une manière de déni, au fond, une façon de ne pas vouloir comprendre ce qui s'est passé?
D'abord, il faut reconnaître, voilà, un intellectuel qui a inventé un slogan innovateur et créateur et qui a fasciné les esprits, la banalité du mal. Mais déjà, quand on se rend compte que elle parlait de l'Holocauste. On peut dire tout sur l'Holocauste, mais pas qu'il est trop quotidien, trop ordinaire pour être intéressant. La définition de banal. Franchement, je crois qu'elle avait raison avec ces phrases quand on parle de la grande division de travail où, disons, un constructeur ou un conducteur sont des petits rouages dans cette machinerie énorme de l'expulsion, déportation et annihilation. Mais quand on parle des bourreaux, quand on parle des grands chefs de la persécution, c'était dingue. Parce que ces gens savaient très très bien ce qu'ils faisaient. C'était pas banal, c'était atroce, c'était obscène. Ils avaient une haine frénétique, une passion extrême. Et ils n'étaient pas banals ni ordinaires, mais des gens qu'il faut étudier pour comprendre ce qui leur motivait, ce qui était leur essor. Et j'ai craint que Hannah Arendt n'a pas voulu reconnaître qu'elle s'était trompée dans Eichmann.
Merci beaucoup, Aram de Swann. Je rappelle le titre de votre livre, « Divisé pour tuer les régimes génocidaires et leurs hommes de main ». Il paraît aux éditions du Seuil. On trouve les références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées. Vous pouvez podcaster l'émission et la réécouter. Et également, vous pouvez la retrouver sur la page Facebook de « La suite dans les idées ». C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission Cyril Baer, à la technique Jean Frédérics, à la réalisation Jean-Christophe Francis. Et c'est Étienne Klein que l'on retrouve dans quelques instants pour la conversation scientifique sur l'antenne de France Culture.